Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi avec Christophe Cessieux, Cyril Linette, Olivier Giraud, Fred Weiss. Ce matin, le Paris Saint-Germain et l'OM, vous le savez, en demi-finale de Coupe d'Europe, principale victime. Notre championnat, le calendrier qui va être sérieusement chamboulé. La Ligue 1 est-elle faussée? C'est notre débat avec Jean-Pierre Caillot. Dans quelques instants, le président de Reims. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Je sais que vous adorez cette séquence. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. Les GG ont proposé 4 débats. Pour l'instant, la dernière place, mais qui revient tout doucement, c'est le Real Madrid. Est-ce que on peut jouer comme ça face à Manchester City quand on s'appelle le Real Madrid? 20% pour toi, Cyril. En troisième position, 22% pour la tenue des Français lors de la cérémonie d'ouverture des athlètes français. Tenue qui a pu faire polémique cette semaine. 22% pour toi, mon cher Olivier. Il est en train de revenir, tout doucement, grâce à sa communauté. Dibou Martinez.
Allez les gars, on lâche rien, on continue, on appuie sur
Christophe
le
Cessieux. 4. Toujours leader, Fred Weiss, 32% avec l'écran noir.
Le meilleur sujet, évidemment.
Sur le basket français. Voilà, 32%
pour
toi. Ça
aussi, c'est une communauté, c'est la communauté des basketteurs, ça.
Votez, vous avez 40 minutes et ensuite nous ferons un débat. Jules Renard a dit un jour, tenez, dit Lavard, voici un calendrier neuf et qu'il vous fasse toute l'année.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Alors ça, c'est injuste.
Je comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. En Angleterre, ils jouent les mecs. Dans tous les autres pays, ils rejouent tous les trois jours les mecs.
Non, c'est pas gentil. Vous n'êtes pas gentil.
La Ligue, faut qu'ils fassent attention. Parce qu'en jouant à ce jeu-là, comment on fait en fin de saison?
Je suis le vilain petit canard.
Je défends des clubs français sur la Coupe d'Europe, sur la scène européenne, mais d'abord la Ligue.
Et bien voilà. Personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Ça biaise un peu le championnat, mais à un moment donné, il faut bien prendre des décisions. Certains en bénéficient, d'autres pas.
Personne m'aime.
J'ai beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, mais je ne peux pas accepter que le Paris Saint-Germain décide seul de l'issue du championnat pour les derniers, pour les mal classés.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
L'Union Nationale a vite volé en éclats. Cette saison, la Ligue de football professionnel a fait un choix fort, unique parmi les 5 grands championnats, aménager le calendrier des derniers représentants sur la scène européenne pour permettre d'aller le plus loin possible, si l'on suit la logique. Et forcément, les qualifications du Paris Saint-Germain et de l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe vont sérieusement chambouler la fin de saison de Ligue 1 alors que nous entrons dans le Money Time. Décision a été prise hier soir par le conseil d'administration de la LFP. D'ailleurs, Jean-Pierre Caillot sera notre invité dans quelques instants, le président de Reims. Certains clubs veulent bien jouer le jeu et d'autres dénoncent un manque d'équité. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le championnat est-il faussé? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Cyril Linette.
Oui.
Olivier Giraud.
Non.
1-2 contre 2, vous l'avez bien compris. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut JC, bonjour à tous. Bon anniversaire Christophe.
Merci.
Les qualifications du Paris Saint-Germain et de l'OM changent quoi concrètement pour la Ligue 1?
Alors premièrement, on déplace les matchs concernant Paris et Marseille entre les matchs aller et retour des demi-finales de Coupe d'Europe. Donc Nice-PSG et Reims-Marseille de la 32e journée de Ligue 1 prévue le week-end du 4-5 mai sont décalés au mercredi 15 mai, juste avant la 34e et dernière journée. Deuxièmement, comme ça ne plaisait pas forcément aux Niçois par exemple, les matchs Nice-Le Havre et Brest-Reims sont avancés eux au vendredi 10 mai pour que Niçois et Rémois ne jouent pas 3 matchs en 8 jours, mais en 10 jours. Donc la Ligue chamboule l'organisation des 15 derniers jours de championnat et supprime la sacro-sainte avant-dernière journée où, par souci d'équité, toutes les équipes jouaient habituellement à la même heure. Chez les entraîneurs de Ligue 1, les avis sont partagés, vous l'avez entendu déjà un petit peu. Certains, comme à 18h, l'entraîneur de Monaco, sont favorables à cette démarche. D'autres, s'ils comprennent que les clubs français soient protégés, constatent que certains clubs de Ligue 1 vont être désavantagés pour la fin du championnat. C'est l'avis d'ailleurs de Pierre Sage, le coach de Lyon.
On se rend compte que Lorient, notamment, va devoir enchaîner 2 matchs dans une semaine, alors qu'aujourd'hui, c'est la première équipe relégable, en tout cas barragiste. Et je ne pense pas que ce soit une bonne affaire pour eux.
Voilà, Pierre Sage qui fait référence à la semaine actuelle, là, qui est déjà aménagée par la Ligue, puisque Lorient a joué Nice hier, jouera Paris mercredi et Toulouse dimanche prochain. Le plus surpris, c'est sans doute Éric Roy, l'entraîneur de Brest, qui découvrira peut-être l'Europe la saison prochaine. Il s'étonne, lui, de la spécificité française.
En France, on nous a vendu le fait de réduire le championnat à 18 clubs pour avoir moins de matchs et donc peut-être du coup être plus performant, nous enlever une coupe nationale aussi dans cet objectif-là. Donc on a fait tout ça et on aménage encore les choses. Donc bon, juste pas juste, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France, qu'on fasse ça, quoi.
Voilà, puis il y a Luis Enrique, le coach du PSG, qui se dit, lui, satisfait forcément de cet aménagement, mais qui comprend que chacun a toujours un petit peu tendance à regarder son propre nombril.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux pour toutes ces précisions. Le président de Reims sera notre invité dans quelques instants. Le championnat est-il faussé? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais commencer par un nom tout de même, parce qu'on a entendu surtout les oui, et notamment les entraîneurs français, les entraîneurs des autres clubs de Ligue 1. Pourquoi non, Fred Weiss?
Ben, moi je me pose la question inverse, pourquoi oui? Pourquoi, en quoi le championnat serait faussé? Effectivement, ça joue un peu plus rapproché. Effectivement, les deux dernières journées, normalement, c'est des multiplex et on se prépare, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le multiplex était favorable, ils ne auraient pas joué pour gagner. C'est ça? C'est, en fait, il se sera adapté aux résultats des autres pour pouvoir jouer. Donc, c'est ça, la compétitivité du sport. Non, c'est pas ça. C'est justement travailler tous dans le même sens pour avancer, pour gagner des points UEFA qui sont très importants pour le championnat. On en a parlé tout à l'heure. Pour les droits.
Pourquoi
pour avancer
pourquoi c'est important pour les clubs?
Bon, il y a plus de clubs qui seront en Europe. Il y a plus de visibilité sur le championnat. Il y a des joueurs qui vont être intéressés.
Tu crois que pour le Havre, Lorient, Metz, c'est important qu'il y ait plus de clubs qui se qualifient pour la Coupe d'Europe?
Oui, parce que peut-être qu'ils peuvent recruter des meilleurs joueurs, parce que l'intérêt de jouer contre des équipes qui font l'Europe, c'est peut-être intéressant pour recruter des joueurs. Mais encore une fois, je me pose la question, en quoi c'est négatif?
Quand tu as une équipe qui a un banc famélique, qui a des joueurs qui sont au fond du trou et que tu les fais jouer tous les trois jours, c'est plus compliqué que pour un club comme le Paris Saint-Germain, comme l'OM, comme Monaco, qui ont des bancs beaucoup plus et qui peuvent enchaîner effectivement les trois majeurs.
Du côté des GG, et c'est les deux sportifs qui ont choisi justement.
Oui, mais parce que les autres sont des cons, il n'y a que les sportifs qui sont intelligents. T'as raison, dis-le.
Tu l'as dit souvent celle-là.
Mais chaque fois, c'est des arguments débiles. Moi, je suis sportif, j'ai tout compris. Toi, tu étais un imbécile, mais c'est ça que tu dis.
Évidemment, quand on est sportif, on a envie de jouer, on préfère jouer que s'entraîner. Donc, je vois pas en quoi c'est grave, justement, de faire des matchs. Okay. Et trois matchs en une semaine, c'est pas non plus le bagne.
Si on prend un peu de hauteur, Fred, les préparateurs physiques demandent beaucoup moins à ce que les matchs soient reportés que les présidents de club. Donc, c'est pas un sujet de préparateur physique. C'est un sujet de président de club. C'est une question de contexte et c'est un vrai changement de doctrine. Oui, c'est un peu faussé parce qu'il y a certains clubs qui se retrouvent à ne pas jouer pendant 15 jours, comme Lorient, et qui se retrouvent à jouer trois matchs en sept jours, même s'il y a encore eu hier soir un nouvel aménagement. Oui, c'est faussé parce que Monaco va jouer contre Lille mercredi sans Golovin qui s'est blessé. Si Monaco avait joué son match la semaine dernière comme c'était prévu, ils auraient joué contre Lille avec son meneur de jeu. Donc c'est forcément faussé. Ça dévalorise un peu le championnat parce qu'on comprend plus grand chose. Ça fait des matchs en semaine.
Je veux pas te rejoindre sur ça dévalorise le championnat. Justement, si tes équipes qui font le championnat, les coupes d'Europe vont loin, etc., tu peux pas dire que tu dévalorises le championnat.
Au contraire. Le championnat en lui-même, ça le dévalorise un peu parce que des matchs en semaine n'ont pas le même retentissement. Amazon ne pèse rien dans le débat public. Si Amazon était puissant, ne laisserait pas faire ça, parce qu'un match le mercredi, c'est beaucoup moins intéressant pour Amazon que dans sa case habituelle. Donc il y a un côté comme ça dans l'organisation des journées qui joue. À l'époque, j'étais patron des sports de Canal, on demandait souvent des aménagements. La doctrine de la LFP, c'était quand même d'être assez strict en disant ça va créer des précédents fâcheux, on va pas s'en sortir. Et c'était Arnaud Rouget qui est DG aujourd'hui, c'était les mêmes personnes. Et moi, je trouve, contrairement à ce qu'a dit Jean-Christophe, que finalement, à part quelques entraîneurs, ça ne suscite pas beaucoup de débats. Pourquoi finalement ce qui dévalorise un peu le championnat, fausse un peu le championnat et devrait normalement faire hurler tout le monde, ne fait pas hurler tant que ça, c'est une question de contexte. Le contexte, c'est les droits télé. Il faut faire plaisir à Nasser, El Khelaifi, parce qu'il faut absolument du dossier avec le Qatar. Donc rien n'est trop beau pour le PSG. Et l'OM s'engouffre dans la brèche parce que l'OM qui joue le jeudi pouvait jouer sur le
terrain. S'il y avait eu que l'OM, on n'aurait pas un peu fait de cas de.
À mon avis, non, je pense pas que la doctrine était prévue. Donc,
c'est juste pour faire plaisir.
Mais pour finir, c'est aussi peut-être un principe de réalité. C'est accepter que la Ligue de foot est actuellement challenger par rapport au grand championnat européen. Donc, c'est pas une critique. Le fait de s'adapter, d'être pragmatique, de faire taire un peu les contestations internes, c'est la grande force de Vincent Labrune. Pour le coup, c'est aussi peut-être une manière de dire voilà, on mise tout sur cette fin de saison parce que la Ligue des Champions, l'Europa League sont très importantes et je vous demande tous de le comprendre.
Tu veux dire que l'intérêt collectif prime l'intérêt individuel.
Et donc, ça s'appelle le sport en fait. C'est une nouvelle doctrine il y a un nouveau contexte qui est les droits télé, mais c'est aussi une position pragmatique qui fait que moi, je ne suis pas complètement choqué. Je crois que dans la vie, il faut parfois être pragmatique quand on est challenger.
Et un président de Ligue 1 qui siège au conseil d'administration de la LFP sera notre invité dans quelques instants. Mais juste, Olivier Giraud, t'as pas encore entendu. Le championnat est-il faussé? C'est non pour toi.
Non, il n'est pas faussé. En fait, c'est la vie démocratique d'une ligue, tout simplement. Ça veut dire qu'au début du championnat, tu rentres dans la grande machine, ça tourne et tu as tes matchs. Et après, tu as une deuxième partie qui s'appelle la Coupe d'Europe. Ça veut dire que tu ne peux pas prévoir si les clubs français vont être qualifiés ou ne vont pas être qualifiés. Le moment où ils se qualifient de manière automatique, on sait tous que de toute manière, ça va chambouler le championnat. Et tout le monde le sait.
Pas forcément, s'il n'y avait pas eu le changement de doctrine, comme le dit Cyril.
Tout le monde le sait. Je l'ai vécu, il y a deux entités qui s'affrontent. C'est l'UEFA, qui elle, rien à foutre de ton championnat. Elle s'en tape de ton championnat.
Mais pas complètement, parce qu'elle a besoin des points UEFA, justement.
Et t'as les gains. Ça veut dire que moi, quand j'étais président de la Ligue professionnelle, on voulait passer
en semaine.
Dehors. On voulait passer en semaine. Eh ben, à l'Europe, ils se sont dit non, nous on veut cette manne, et ils ont placé en semaine, on a dû obligé de tout chambouler. Donc t'as un entre-deux, et de toute manière, à un moment, quand il y a cet entre-deux et que t'as tes clubs européens qui vont loin, eh ben là tu réunis ton conseil d'administration, parce que de toute manière tu n'as pas le choix. Et de toute manière, il va y avoir des lésés. Et des lésés, il y en a pas seulement dans les clubs qui se battent pour se maintenir, il y en a aussi dans les clubs qui sont européens et qui jouent deux matchs par semaine, et qui, eux, sont lésés dans le championnat parce qu'ils n'ont pas le turnover. C'est-à-dire que Marseille fait partie de ces équipes-là, qui aujourd'hui jouent sur deux tableaux, et ils sont certainement lésés parce qu'ils seraient peut-être beaucoup plus haut au championnat, vers la Ligue des Champions, s'ils ne jouaient pas.
Ça, c'est
non, mais ce que je veux dire, c'est que, de toute manière, dans le conseil d'administration, c'est l'unité qui décide. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a consensus au conseil d'administration, évidemment, il y en a que ça va gêner, mais c'est la vie démocratique du sport français, tout simplement.
Et justement, ça a été voté hier à l'unanimité lors du CA, du conseil d'administration de la LFP. Justement, avant de te redonner la main, Christophe, on va accueillir le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui est avec nous. Bonjour, président.
Bonjour.
Merci.
C'est chaud vos échanges.
Ça s'appelle les grandes gueules du sport. C'est tous les samedis, tous les dimanches, de 9h30 à midi. On est très heureux de vous recevoir, Jean-Pierre Caillot. D'abord, je vous interroge avec la casquette de président, ensuite du membre du conseil d'administration. Déjà, la casquette de président, le championnat est-il faussé?
Écoutez, quand Pablo Longoria m'a appelé hier matin, avant même que la Ligue de football m'appelle pour connaître mon sentiment, j'ai eu aucun moment d'hésitation. C'est-à-dire qu'on pourra dire tout ce qu'on veut, faussé, pas faussé, j'en sais rien. Il y a une réalité, c'est que on dit en boucle depuis des années qu'on veut exister sur la scène européenne, qu'on a besoin d'un bon indice UEFA. J'entendais que c'était rappelé juste avant. Et lorsqu'on est confronté à la situation, je pense qu'il ne faut pas regarder son intérêt personnel. Donc, pour l'intérêt général du football, pour notre écosystème, ça a été rappelé aussi, au club de s'adapter. Et moi, c'est exactement comme ça que j'ai vécu les choses. Je suis aussi président du Collège de Ligue 1. Avec Vincent Labrune, on porte une nouvelle vision, une nouvelle organisation du football et de la Ligue. Je pense que la première chose, c'était effectivement de soutenir nos clubs européens qui nous ont d'ailleurs remercié. Vous savez, on a un WhatsApp des présidents où on échange entre nous, et je peux vous dire qu'à peine n'était-il qualifié qu'il remerciait tous les présidents de clubs de Ligue 1 pour la solidarité. Parce qu'encore une fois, c'est facile de dire qu'on est unanime, qu'on est solidaire quand on n'est pas confronté. C'est quand on est confronté à la situation comme c'est le cas, et Dieu sait que c'est magnifique pour notre football, parce que c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est quand même pas
tout le monde était d'accord, on comprend le président. Christophe,
on a l'impression, on en parlait il y a quelques instants, président, que tout le monde aujourd'hui a envie d'être très gentil avec le président du Paris Saint-Germain, qui s'affiche peut-être comme celui qui va sauver la Ligue 1 en faisant une proposition pour les droits télé.
Arrêtez-vous tout de suite.
C'est pas vrai.
Vous avez le droit de soulever des choses comme ça. Mais moi, je peux vous dire que tous mes collègues que j'ai eu au téléphone ne sont pas du tout dans cet esprit. Non, c'est pas, Ça n'a rien à voir. Alors effectivement, plus le football français sera haut, plus nos droits télé auront sûrement seront intéressants, peut-être. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a absolument aucune volonté de privilégier l'un à l'autre. D'ailleurs, dans le cas présent, on va même pas séparer la France, puisque c'est le PSG et Marseille qui sont tous les deux concernés. Donc non, il n'y a pas la volonté de faire plaisir à qui que ce soit. C'est juste une volonté collective. Alors ça, c'est peut-être nouveau de l'entendre dans le football, parce que ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Certains présidents par le passé avaient quand même tendance à tirer la couverture à eux. Aujourd'hui, c'est pas.
Jean-Michel Roussier, il y a quelques jours, était pas très content quand même. Hein. Vous parlez de solidarité totale. Bon,
il y en a toujours. C'est normal. Il y en a toujours.
Oui, non, mais vous savez.
Il y a quelques vilains petits canards.
Non, mais il y a Jean-Michel Roussier parce que il est contre le deal CVC, la répartition. Donc lui, il est en opposant à la Ligue depuis le début. Mais là où je rejoins Jean-Pierre, et c'était moi ma question, Jean-Pierre, c'est vrai que c'est nouveau quand même dans le football français. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'entend pas trop de récriminations sur ces sujets. Et c'est quand même très nouveau. On a le sentiment, alors je ne sais pas si c'est la situation des droits télé ou si c'est globalement l'approche un peu nouvelle qui change la donne, ou le travail évidemment de Vincent Labrune, on a quand même un sentiment, je ne sais pas, est-ce que les débats ont été vraiment nourris ou est-ce que finalement tout le monde est arrivé assez vite à la même conclusion ?
Pour le conseil d'administration hier, vous voulez parler ?
Ouais, absolument. Oui. Ouais.
Alors ça a été, il n'y a pas eu de débat parce qu'en fait ça s'est fait par mail, mais j'ai vu que l'unanimité avait été réunie. Ça semble logique, c'est tout à fait conforme à ce qu'on veut faire du football depuis quelques années.
Président, est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience dernièrement, on parlait des indices UEFA, de tous les présidents de clubs, du fait que on avait peut-être loupé quelque chose, on parlait de l'Allemagne, de l'Italie tout à l'heure, qui l'ont peut-être compris plus tôt que nous, que la valorisation du championnat aussi, c'est sa place sur la scène européenne, qui augmente la valorisation aussi des joueurs du championnat. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi générale ?
Tout à fait. Tout ça est lié. Je pense que la présence, c'est quand même une grande anomalie que la France, qui est deux fois championne du monde, n'arrive pas tous les ans à exister dans les compétitions européennes, alors que nos concurrents les plus proches arrivent. Donc il y a effectivement eu une refonte. On a repensé un petit peu la feuille de route du football. Alors, au milieu de ça, il y a effectivement les droits télé, mais il n'y a pas que les droits télé. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Vous avez vu que on attaque des sujets qui sont un peu tabous, comme celui de l'arbitrage. Enfin, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont mises en place depuis l'avènement de la gouvernance de Vincent Labrune.
Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, est notre invité exceptionnel dans les grandes gueules du sport ce matin autour de ce débat. Le championnat est-il faussé après les qualifications du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille en demi-finale de Coupe d'Europe? Fred Weiss, une question pour Jean-Pierre Caillot. Toi, tu étais dans le camp de non, il n'est pas faussé ce championnat.
Non, effectivement. Président, j'ai une question par rapport à cette union sacrée. Est-ce que c'est une union sacrée de façade et nécessaire actuellement, ou c'est quelque chose qui va perdurer justement? Est-ce qu'on va durer dans le on sait tous et c'est important d'avancer et d'avoir un indice UEFA pour le répéter hyper haut.
Ben, comme vous le savez, je suis président du collège de Ligue 1, donc j'appelle de tous mes vœux que ça continue. Mais aujourd'hui, il y a une vraie unanimité et c'est vraiment pas une position de façade. Il y a eu d'ailleurs sur des sujets, vous avez évoqué tout à l'heure CVC, quand il y a eu l'arrivée de ces de ce fonds d'investissement, il y a eu un accord général. On a trouvé, chacun y a trouvé sa position. Il n'y a pas eu d'opposition au sujet. Voilà, il y a aujourd'hui des sujets importants. Alors
il aurait peut-être fallu, président, je vous coupe, pardonnez-moi, mais il aurait peut-être fallu justement que certains la contredisent, cette opération. On ne sait pas si elle est forcément bonne pour notre championnat. Signer un contrat à vie à 13% des droits télé, c'était peut-être bien sur le moment, mais c'est peut-être pas pérenne.
Oui, c'était peut-être bien aussi qu'il y ait un investisseur qui vienne amener 1,5 milliard après le Covid et après les échecs qu'il y avait eu. Je pense qu'un certain nombre de clubs, on n'est pas tous des milliardaires dans le football, on n'est pas tous des représentants de fonds d'investissement ou de pays. Il y a aussi des clubs qui ont des volontés à exister avec des dirigeants régionaux que j'incarne. Et c'était important qu'il y ait effectivement cet accord. Donc, on peut en dire ce qu'on veut. Je pense que ça a apporté du bien. Et surtout, au-delà de la manne financière, ça a amené en one shot. C'est des gens qui, aujourd'hui, via la société commerciale que la Ligue de football a mise en place, vont nous faire évoluer. Et j'en veux pour preuve les derniers contrats qui ont été signés, que ce soit en digital ou que ce soit pour le naming de la Ligue 1. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qu'on ne pouvait pas rester à la situation où on était, où nos clubs, tout doucement, était en train de s'appauvrir. Et je pense que le football moderne bénéficie de cette solidarité. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'anime des collèges, évidemment, il y a des discussions, mais on arrive assez souvent à une ligne qui est commune.
Une dernière question pour vous, Président Caillot, parce que vous êtes directement impacté. On le disait, Reims est 8e du championnat avec 40 points. Un point seulement derrière l'Olympique Lyonnais, 7e, et on sait que cette 7e place pourrait être qualificative pour la Coupe d'Europe. Donc, vous êtes concerné, évidemment, pour cette fin de championnat. Votre match Reims-OM est donc décalé entre les deux dernières journées. On a bien compris qu'il y avait unanimité des présidents, mais on a entendu aussi dans le reportage depuis hier, les entraîneurs se posent la question et se disent, il y aura des clubs forcément désavantagés. Et forcément, ce sera un peu faussé. Est-ce que vous avez ce type de conversation avec votre entraîneur qui vous dit, OK, pour le bien du foot français, je comprends, mais moi, là, pour mon équipe, mon objectif, je ne suis pas sûr de l'atteindre.
Je suis plus que concerné, puisque je joue Marseille le mercredi, et aujourd'hui, s'il ne change pas la dernière journée, s'il ne la décale pas au dimanche, je jouerai Rennes le samedi. Il ne vous échappe pas que c'est pratiquement les deux clubs avec lesquels on est en concurrence pour cette 7e place. Donc oui, on est concerné. Oui, mon entraîneur aurait peut-être vu des choses différentes, mais encore une fois, quand on est patron, faut expliquer à ses troupes qu'il y a un intérêt général et qu'on fait ce que le patron a dit.
Et pour le réceptif, pour tout ce qui est autour de l'organisation des matchs, c'est assez préjudiciable pour des clubs comme ça de changer, même si là il y a un peu de marge, c'est pas tout de suite, mais vous perdez de l'argent sur des coups comme ça.
Là, en l'occurrence, on est en train de parler d'un Reims-Marseille. Il y a deux matchs dans l'année où le stade est à guichet fermé, c'est PSG et Marseille. Donc Reims-Marseille, je le ferai le dimanche à 8h du matin, je pense que je remplirai le stade. Donc c'est pas très grave. Alors après, je peux concevoir que ça sera pas le cas pour tout le monde. Mais vous savez, quand on parle d'unanimité, on parle de ce que nous avons accepté avec Nice en étant décalé, mais de la même façon, Brest a accepté, alors qu'on devait jouer le dimanche, d'avancer au vendredi. C'est-à-dire que quand on dit unanimité, on voit que tous les clubs, et même le HAC, effectivement, Jean-Michel a exprimé son point de vue, mais même le HAC va jouer contre Nice le vendredi. Ça veut dire que tout le monde s'adapte. Voilà, c'est nos entraîneurs, nos clubs, tout le monde s'adapte à faire que nous souhaitions que nos clubs fassent leur finale en Coupe d'Europe.
Merci Jean-Pierre Caillot d'être venu vous expliquer sur RMC ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonne fin de saison à vous et bon match demain de votre équipe qui reçoit Montpellier. Ce sera à 15h et ce sera évidemment à suivre sur RMC. Le championnat est-il faussé? N'hésitez pas, vous pouvez commenter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport, le compte X et toutes les dernières informations. Si vous voulez tout connaître de ce calendrier, on s'y perd un petit peu, n'hésitez pas à aller sur rmcsport.fr. 11h28, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Vous allez voir, vous allez dire, ah oui, il va encore nous parler de ça. Mais il y a autre chose, il y a une autre logique derrière. Je vous prépare un petit peu mentalement, surtout Christophe Cessieux. A tout de suite sur RMC pour le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Les chauds aux échanges.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, c'était Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui était notre invité et qui a donc découvert en direct les grandes gueules du sport. Et oui, parfois dans le studio RMC, ça peut être un petit peu tendu. N'hésitez pas à aller réécouter ce débat en podcast. Le championnat, la Ligue 1, est-elle faussée? Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. 4 très bons débats ce matin. Déjà, je vous félicite. Et ça se retranscrit dans les sondages.
Oh là là,
car vous êtes
chaud.
Extrêmement serré. Ça va de 21 à 29% pour l'instant. Fred Weiss, qui avait quand même 10 longueurs d'avance, est en train
de se faire rattraper
par Christophe Cessieux. Vous avez encore.
Fort, il part trop fort.
Et en plus, je suis épuisé, je m'épuise plus rapidement. Je tiens pas la longueur.
7 minutes.
C'est un bon lièvre.
Ouais, il va le manger, comme d'habitude, Christophe Cessieux.
C'est croqué.
Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Alors, qu'est-ce qui nous a trouvé celui-là encore?
Vous connaissez le principe, les GG, vous ne savez rien. Je vous propose un débat. Et on en parle, c'est sur la sensation, sur l'émotion, sur ce que ça peut retranscrire en vous, dégager en vous. Le débat caché du jour, c'est ça.
Coup franc, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Non, non, carton rouge. Carton rouge.
Oh là là.
Carton rouge pour Araújo. Carton rouge à 10 contre 11. Les Barcelonais, il avait déjà un jaune.
C'est le meilleur défenseur du Barça et peut-être de la Liga qui va sortir.
Il y a rouge tous les jours en tout cas.
C'était mardi soir, le carton rouge d'Arojo qui a tout changé dans ce quart de finale. Retour entre le Barça et le PSG. Mais nous n'allons pas débriefer cette action, mais plutôt nous interroger sur les conséquences que cela peut avoir dans un vestiaire. Car après le match, Gundogan a publiquement critiqué l'intervention de son coéquipier.
Dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas, mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but, franchement.
Avant d'ajouter que cette faute avait tué l'équipe, le lendemain, son coéquipier, Arojo, a réagi.
Je préfère garder pour moi ce que je pense. Il y a des valeurs, des codes de vestiaire qu'il faut, selon moi, respecter.
Notre débat. A-t-on le droit de critiquer publiquement un coéquipier ? Oui ou non ? Fred Weiss.
Non.
Olivier Giraud.
Ben moi, non, mais ils ont le droit.
Plutôt oui. Cyril Linette.
Non. Mais ça se comprend.
Christophe Cessieux.
Non, pas publiquement.
Non, pas publiquement. Fred Weiss.
C'est simple, il y a des codes dans les vestiaires. Dans les vestiaires, il y a des codes, justement. C'est là que tu laves ton linge sale et tu dois pas le déballer à tout le monde. Il faut rester une équipe. Il reste des matchs à jouer pour le Barça. Et c'est important de se rester soudé, de pas se critiquer mutuellement. Alors, je dis pas que, dans le vestiaire, ils peuvent pas se taper dessus, hein. Moi, ça me choque pas du tout, par contre, ça. Mais par contre, que ça sorte devant tout le monde, que tu critiques la personne qui partage ta vie, parce que quelque part, c'est quelqu'un qui partage ta vie. C'est un membre de ta famille, ton équipe. Et là, tu le critiques publiquement. Je trouve que c'est le désavouer, c'est l'attaquer bêtement et que ça n'a aucun sens dans une équipe.
C'est une belle vision, mais ça arrive à chaque fois qu'il y a comme ça un scénario qui tourne mal, un coéquipier qui glisse un petit taquet à un autre.
Non, t'es pas obligé de glisser un taquet. Tu peux dire, effectivement, peut-être qu'il a commis une erreur sur ça, mais on le soutient et on est là avec lui, parce que c'est ça l'esprit d'équipe. Je te dis, si dans le vestiaire, il se tape dessus, il se cogne dessus, ouais, ça me choquera pas du tout, parce que ça doit rester dans le vestiaire. Mais là, c'est juste l'analyse d'un pauvre sportif. Je ne suis pas Christophe Cessieux.
Difficile, puisque si on est dans le registre émotionnel, difficile de dire des choses. Bon, après, la tradition des footballeurs allemands, et Gundogan est allemand, elle est quand même souvent de s'envoyer des trucs à la figure. Enfin, c'est pas les sportifs, enfin, l'équipe de foot allemande. Ils ont toujours eu l'habitude de déballer un peu leur linge sale en public. Je crois pas que son propos soit très agressif sur la forme. Enfin, sur le fond, il dit quelque chose de signifiant. Et comme c'est un joueur expérimenté, je pense qu'il sait ce qu'il dit. Donc, je suis d'accord avec Fred. Je suis pas complètement surpris que ça vienne peut-être d'un joueur comme ça, qui a beaucoup d'expérience.
Et puis, à un moment donné, ça peut aussi faire avancer le schmilblick dans une équipe.
Parce que on apprenait hier qu'Aruro pourrait être transféré. Enfin, bon, ça a des conséquences quand même. C'est quand même un super défenseur. Et là, il pourrait être placé sur la liste des transferts par le Barça. Donc, ça a l'air d'être un peu chaud.
Olivier Giraud.
Je suis d'accord avec Fred, mais sauf que c'est un autre temps, ça. Il y avait des codes. Les codes au football, ils ont disparu. On sait exactement à quel moment le vestiaire, ça a disparu. C'est le jour où il y a des joueurs qui donnaient des informations pour avoir des meilleures notes dans l'équipe. Et ça, c'est il y a 20 ans. Et on donnera pas de nom. Il y en a qui travaillent à la radio.
Tu vas dire dans cette radio ?
Non, peut-être pas dans celle-là.
Je vois
mais ce que je veux dire, c'est que ces codes-là, ils sont terminés aujourd'hui. Être footballeur professionnel, c'est tu joues à l'intérieur d'un collectif, tu essaies de jouer dans le meilleur pour te mettre toi le plus en avant possible, la valorisation de ce que tu es. Et que aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres. Il y a effectivement le jeu, la déception d'avoir perdu, mais il y a aussi des enjeux économiques très très forts qui jouent sur ce que sera le club l'année d'après. Le Barça, en un match, a perdu 67 millions d'euros. Et donc, il faut toujours trouver un coupable.
Mais je ne crois pas que Gundogan, son style, ce soit de se mettre en avant, type réseaux sociaux, je ne crois pas. Dans sa tradition, les joueurs allemands, en général, ne se mouchent pas du coude quand il faut parler.
Et après, il y a des clubs où il y a aussi une tradition où, quand tu arrives dans le club, on t'explique très clairement ce que tu peux faire, la manière dont tu peux communiquer. Et aujourd'hui, apparemment, il fallait trouver un coupable et ça ne dérange personne que Gundogan fasse cette sortie-là, qui va précipiter, là, quand tu n'as pas de contradiction qui vient du club pour dire, mais non, le joueur, on n'en veut pas, se dire que c'est un consensus général et que, finalement, on va trouver un coupable parce que, tu sais que la ferveur du football espagnol, il faudra trouver un coupable. Et Xavi étant une personnalité juste historique du club, c'est plus facile de trouver ce pauvre royaume.
Ok, Christophe Cessieux.
Ah, moi, je suis pas sportif, hein, donc j'ai pas.
Vous arrêtez les deux là.
Non. Écoute, je sais pas quel est l'état de leur relation, parce que là aussi, ça peut jouer. Peut-être qu'en interne, ils supportent pas tous les deux et qu'il y a déjà des tensions. Si c'est quelqu'un que t'apprécies, si c'est ton pote, tu vas pas aller balancer devant la presse en disant qu'il a eu un comportement exécrable. En revanche, si c'est un mec avec qui ou t'es en concurrence ou avec qui t'as eu des mots, ça peut sortir. Plus naturellement. Effectivement, c'est des choses qui se font pas. Moi, par exemple, je critique jamais Jean-Christophe, tu vois. Pas en public.
Si, à nous,
pas en public, en tout cas.
Il a failli oublier mon prénom.
comment t'avais appelé un jour,
c'était... Jean-Claude, mais c'est Marie Zévan Juppé qui m'a appelé Jean-Claude pendant deux ans. Mais c'est pas ça, c'est que je ne lui ai rien dit pendant deux ans. Je me laissais appeler Jean-Claude. Et un jour, on lui a dit non, mais c'est Jean-Christophe. Il a dit oh, je fais la bêtise depuis deux ans. Bref, on s'en moque de cette histoire. Juste pour vous dire que Gundogan a déclaré ce matin que la hache de guerre était enterrée, qu'ils allaient tirer dans le même sens jusqu'à la fin de saison. Mais là, les sportifs, là, ça vous est jamais arrivé publiquement de glisser un petit taquet pour faire passer un message?
Jamais. Mais parce qu'on se parlait en face.
Quand tu joues avec Gabib, par exemple.
J'ai malheureusement pas eu cette chance, parce que c'est un joueur de basket extraordinaire, par contre. Mais jamais. Évidemment que non. Mais ça me vient même pas à l'idée. La langue de bois est normale dans le sport par rapport à ça. On protège ses coéquipiers. Par contre, j'ai déjà vu des bastons dans les vestiaires parce qu'il y a eu des erreurs, etc. Et ça, moi, je respecte. Parce que ça ne sort pas. C'est dans le cadre.
Okay, mais dans un vestiaire, on peut se reprocher, on peut se dire.
Non, on doit se reprocher.
C'est chaud.
On doit se reprocher dans le vestiaire, justement.
Et c'est ça qui était beau, c'est-à-dire que là, en fait, ce qu'a sorti le joueur barcelonais, c'est rien du tout. Nous, on a vu. Aujourd'hui, pendant très longtemps, il était pratiquement interdit de raconter ce qui se passait dans le vestiaire. Interdit. C'est-à-dire que l'important, c'était de montrer le show, ce qui se passe à l'extérieur.
La langue de bois était de rigueur.
Dans les équipes de handball, il y a eu combien de fois il y a eu des bagarres, des mots, des.
Raconte-nous une histoire.
Une histoire. Un match où il y a un joueur russe et un joueur français, un gardien de but français connu, et dans le vestiaire du PSG, embrouille parce que ça s'est mal passé. Et les deux ont cette particularité de parler espagnol. Donc moi, je revenais d'Espagne, donc on était quelques-uns. On devait être quatre à parler espagnol. Et le ton monte, mais entre deux Golgothes. Hein. C'est-à-dire que le russe, c'était Pogorelov, c'était une armoire à glace russe, mais l'ancienne Russie, tu vois. Et il commence à se prendre la tête, mais sauf qu'il n'avait pas prévu que le mec en face était plus fou que lui. Et il lui a dit, si tu te lèves du siège, je ne dirais pas le mot, mais à l'époque, il lui dit...
Il y a bagarre.
Non, je vais te tuer. Et dans ses yeux, c'était écrit, et le russe s'est assis, ouais. Et le match est reparti, et il y avait un autre joueur qui, lui, ne parlait pas espagnol, dit non, mais c'est pas de sa faute, et il a pris cher lui aussi.
Okay. Question, le coach a laissé faire ou pas? Ça lui a semblé pas mal que ça sorte comme ça?
Non, le coach n'était pas dans le vestiaire à ce moment-là.
Mais après, moi, j'ai vu ce genre d'altercation où ça se pousse un peu plus, où il y a vraiment contact physique, le coach n'intervient pas. Parce qu'au contraire, lui, il est ravi que ça se passe comme ça, que qu'on crève l'abcès, et avant de retourner sur le terrain, c'est fait en tous les cas.
Bah, je pense aussi.
Et on a gagné le match après.
Ouais.
Ben voilà, tout va bien. Et au Barça, tout va bien. Ils sont très heureux.
Et d'ailleurs, ils vont affronter le Real avec Madrid. Christophe Cessieux, juste après, on va s'expliquer un petit peu aussi sur.
Oui.
Je mets une pièce sur toi.
Et vous savez que dans ces cas-là, quand vous vous chauffez un petit peu hors antenne, je n'interviens pas, mais pas pour les mêmes raisons. C'est juste que je n'ai aucun courage. 11h43, on se retrouve dans quelques instants. Les GG contre-attaque, qui l'a emporté? C'est extrêmement serré. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, de retour dans les grandes gueules du sport. C'est la dernière ligne droite, nous sommes ensemble jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC autour de cette 30e journée de Ligue 1. Toujours ce matin avec Olivier Giraud, Fred Weiss, Cyril Linette, Christophe Cessieux. Et tout de suite, c'est votre moment, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Match phénoménal ce matin. 4 propositions de débat par les GG. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour votre débat préféré, le grand gagnant avant la 4e place pour Cyril Linette. Le Real a-t-il proposé un beau football mercredi soir face à Manchester City? 20% pour toi, Cyril. Bravo, Cyril.
20% pour une 4e place.
C'est rare. D'ailleurs, c'est rare que tu sois 4e. Je crois que c'est la première fois.
Oui, et 20%, c'est bien. Je m'en contente. C'est un sujet. Voilà.
Bravo. Quatrième. Troisième, 23% pour les tenues des sportifs.
Je suis surpris de finir quand même derrière ce sujet. Mais...
les tenues sportives des Jeux Olympiques de Paris, nos athlètes français.
Tu seras toujours avec moi, il y a un sujet dans le sujet.
D'ouverture. 23%, bravo,
c'est
mon
pas
cher.
Mal, c'est
tu
pas
seras
mal.
Là demain, on pourra en mal. Parler. Alors là, ça a été un match de costaud, un match extrêmement serré. Tu es parti avec 38%. Christophe Cité à 27%.
C'est l'histoire de ma vie.
Et c'est vrai que tu es parti beaucoup trop vite, car durant la publicité, il y a quelques instants, Christophe Cessieux est passé devant avec 29%, 28% pour toi. Tu proposais le basket, l'écran noir sur la diffusion du basket français. On en parlera demain, c'est promis, mon cher Fred. 29%, Dibou, je t'aime, Dibou, je t'adore, Dibou Martinez. Christophe Cessieux, c'est à toi de convaincre.
Je voulais juste remercier la team Cessieux, emmenée par le capitaine Mika, qui plaide en ma faveur régulièrement et qui m'a permis de battre sur la ligne.
Mika qui n'a aucun goût apparemment.
Mon ami Fred. Alors, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis ce matin en tenant cette position, notamment auprès des supporters lillois ou encore de ceux de l'équipe de France qui n'ont pas oublié évidemment l'affront que leur avait fait le gardien argentin lors de la finale de la dernière Coupe du Monde. Oui, je ne vais pas me faire d'amis, mais moi, Dibou Martinez, je le kiffe. Ben voilà, c'est comme ça. Pour certains, il est pourtant le roi du mauvais goût. Pour les autres, le prince des chambreurs. Et pour les derniers, dont Olivier Létang, le président lillois, qui n'a pas apprécié son comportement jeudi soir lors du match face à Villa. Un garçon qui n'a pas l'attitude d'un joueur de haut niveau. Ça, on l'a entendu depuis des mois et des mois. Alors peut-être qu'il est un peu de tout cela à la fois. Et sans doute qu'il ne vaut pas mieux l'avoir comme adversaire. Mais en revanche, quand tu as un joueur de ce type dans ton camp, c'est que du bonheur. D'abord parce que c'est un fantastique gardien. L'un des tout meilleurs de la planète, notamment sur les séances de tir au but, sur les pénaux. Mais qu'outre ses qualités footballistiques, c'est aussi un cadre en matière de psychologie humaine. Et on le sait, l'aspect psychologique est une donnée essentielle du sport de haut niveau. Il sait rentrer dans la tête de ses adversaires, il sait les faire déjouer, les déconcentrer dans les moments capitaux, il sait se nourrir de la haine que lui vouent les publics adverses, et ça ne l'affecte aucunement. On a même l'impression que ça le nourrit, que ça lui donne encore plus d'énergie et que ça le surmotive. Donc c'est pour toutes ces raisons que moi j'apprécie Dibou Martinez, et je suis sûr que quand tu as un gars aussi fort dans sa tête que ce gars-là, franchement tu peux aller loin jusqu'à des victoires en Coupe du Monde ou pourquoi pas en Coupe d'Europe. Alors évidemment, ces détracteurs me rétorqueront que tu peux avoir ce genre de comportement sur le terrain et qu'ensuite, en dehors du terrain, une fois dans la célébration de la victoire, tu peux faire un peu amende honorable ou ne pas te comporter comme il l'a fait notamment lors des célébrations de la victoire de l'Argentine, peut-être. Mais le garçon, je pense, n'a que faire du somme de ses adversaires. Lui, ce qu'il importe, c'est de se faire aimer des siens et de régaler son public. C'est la raison pour laquelle, en Argentine, il est l'un des footballeurs les plus populaires. Peut-être pas du niveau de Messi, mais juste en dessous. Juste en dessous. Et tous les gens qui le connaissent disent du bien de lui, disent que c'est un garçon formidable. Lucas Digne, par exemple, qui joue avec lui à Aston Villa, le disait hier après la rencontre. Donc oui, Dibou est probablement le joueur que les Français aiment le plus détester, mais moi, il me fait marrer. Le chambrage porté à ce niveau-là, c'est de l'art. Je préférerais, franchement, qu'on propose plutôt à lui qu'à Joël Embiid un passeport français. Le seul souci, c'est que je suis sûr qu'il en veut même pas et qu'il fera jamais de lettre au président de la République.
Parfait, très bien, merci Christophe. Tu aimes Dibou Martinez. La question maintenant au GG, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous aussi, vous aimez son comportement? Fred Weiss, oui? Alors, ou non?
J'aime, oui.
Oui, parfait. Olivier Giraud.
Alors, j'aimerais son comportement s'il était sur le terrain.
Ok, tu nous diras pourquoi. Cyril Linette,
c'est un gardien de but.
Plutôt, le sport a besoin de méchants, entre guillemets.
C'est
sympa.
Avant de vous entendre plus en longueur, écoutons Olivier Létang, forcément le Lillois, qui n'a pas apprécié l'attitude d'Emiliano Martinez.
J'ai pas envie d'en parler, puisqu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Parce que dans le sport de haut niveau, dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant. Donc j'ai pas envie de parler plus longuement. Je préfère qu'on se concentre sur nous et qu'on ressorte tous les aspects positifs de cette soirée.
Ok, voilà Olivier Létang, c'était au micro d'RMC. Olivier Giraud.
Je vais vous surprendre. J'adorerais ce type de comportement si c'était comme on disait à l'époque, un mec qui en a, c'est-à-dire que t'es sur le terrain, t'es vraiment proche, tu peux subir la confrontation directe, et à ce moment-là, c'est une preuve de caractère. pour moi, quand t'es dans les buts, et surtout dans un sport comme le foot, tu sais très bien qu'on peut pas te toucher. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, finalement, non, je suis pas très respectueux de ce truc-là. Ça veut dire que tu le fais quand tu sais que tu peux aller à la confrontation et que tu vas te frotter aux gens.
Il fait trop le
malin. Ça veut dire que s'il était sur le terrain, ça ferait longtemps qu'il serait à l'hôpital, en fait. Demande à Eric Dimeco. C'est-à-dire que si c'était un joueur qui était sur le terrain, il y aurait même plus d'histoire. Il serait mort dans le game à l'entraînement, il serait mort dans le game sur le terrain, et que au final, c'est une attitude pour moi hyper lâche et trop facile. Est trop facile. Et là, je pense sincèrement qu'il y a un très gros laxisme au niveau de l'arbitrage. Ce qui s'est passé pendant les tirs au but, il aurait dû prendre carton rouge, même si la règle ne le dit pas. Il aurait dû prendre.
Il a pris un carton jaune. Il a pris un carton jaune durant la rencontre.
Il va falloir changer la règle.
La règle dit que la séance de tir au but.
T'as un peu le seum encore. T'as pas oublié ce qui s'est passé.
Alors, je vais te dire un truc. Je m'en fous complètement. Ça veut dire que je suis supporter de l'acte. Ça veut dire que si on gagne, je vais dire c'est génial, on a gagné. Si on a perdu, on a perdu, on passe à autre chose. Donc moi, si tu vois le truc du seum, c'est pas moi. Mais par contre, ce type de gardien. Je peux te dire que ça.
Donc le chambrage pour toi, ça fait pas partie de.
Ah, mais après, faut que tu l'assumes. Hein.
Non, mais je veux dire, il l'assume en étant bon sur le terrain.
Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Il a la chance d'éviter les contacts. C'est plus simple de chambrer dans ce cas de figure. J'entends. Sauf que il faut quand même assumer et être bon derrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est ça. Moi, j'ai juste un problème, Christophe, c'est sa vulgarité parfois.
Oui, c'est un beauf.
C'est un vrai beauf. Et à 90%, je suis d'accord avec toi. Mais cette vulgarité,
nationalité, on n'en veut pas. C'est le contraire qui reste.
Ça nous aiderait quand même peut-être à gagner les séances de tir au but. Mais je sais que Didier Deschamps ne veut pas travailler les séances de tir au but.
Moi, je pense qu'un athlète de haut niveau, il doit aussi représenter des choses, des valeurs. Et cette vulgarité, moi, pour ce qu'il donne aux jeunes et aux autres, ça me dérange. Après, le chambrage, je viens du sport où ça se chambre peut-être le plus.
On a l'impression que vous avez tous fait vos études dans des institutions catholiques, les trois là.
On est tous d'accord avec toi. Moi, je me suis pas exprimé. Moi, je pense que je suis assez d'accord. Il y a un petit côté beauf en plus, mais globalement, je reste quand même assez en accord, même très en accord avec le propos de Christophe, parce que je pense qu'il faut des méchants entre guillemets, bien sûr, dans le sport. Il s'est quand même fait siffler pendant 120 minutes. Il a quand même le droit d'être content et de chambrer un peu en gagnant les tirs au but. C'est quand même la moindre des choses. Et puis c'est typiquement le joueur que tu détestes quand il n'est pas dans ton équipe. Si l'année prochaine il vient à Lille, ils vont tous se trouver formidables parce qu'il les qualifiera en. Voilà,
il est rock'n'roll et performant.
La mauvaise foi absolue, on est tous pareils, des supporters dans le sport et dans le foot en particulier, c'est quand même de détester un joueur quand il est dans l'équipe adverse et de lui trouver finalement toutes les qualités nécessaires quand il rejoint son propre camp. Donc moi je crois que le foot a besoin quand même un peu d'histoire comme ça.
Ouais, mais entre le chambrage et la vulgarité, il y a quand même un.
C'est justement ce qui me dérange chez lui, c'est cette vulgarité. Mais le chambrage en soi, je trouve ça plutôt cool. J'aime les mecs rock'n'roll et j'aimerais toujours. Et toi aussi, t'aimes les mecs rock'n'roll, je le sais.
J'adore.
Voilà, forcément.
Je sais que sur un terrain, il détestait se faire chambrer et que ça pouvait partir assez rapidement avec notre ami Olivier.
Moi ?
Toi, oui.
C'était moi qui chambrais. J'adorais me faire conspuer, je le reconnais.
Et toi, quand t'allais à Pau, t'aimais pas ce qu'on faisait ?
J'adorais, c'était le meilleur moment. Bien sûr. En plus, j'apprenais des insultes sur ma maman, c'est génial.
Samir Nasri, qui a déclaré, qu'il a connu évidemment en Première Ligue, qui a déclaré au micro de Canal+, qu'en fait, il n'était pas comme ça avant, et qu'aujourd'hui, il pense que c'est son fond de commerce.
Il s'est créé un personnage, voilà. Sans doute.
11h56, merci beaucoup les GG pour cette émission. Oui, merci Cyril Linette, Olivier Giraud, Fred Weiss, Christophe Session. On sera de retour demain à partir de 9h30. Bon anniversaire encore, mon cher Christophe Session. Tu seras là demain, pas trop la fête ce soir.
Je serai là demain, je pars en vacances demain soir.
Voilà, grosse émission demain à suivre avec Christophe.